Place Info.
Bonsoir, Cédric Villani ira à Paris, Sylvie Goulard à la Commission, les retraites et l'âge pivot, la rentrée du MEDEF et une réforme des institutions. C'est dans les informés avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, avec Hélène Pilichowski, journaliste politique, avec Thierry Turté, journaliste au service politique de France Télévisions, et Georges-Marc Benhamou, journaliste, écrivain, auteur du Général a disparu, la fuite à Baden-Baden, édité chez Grasset. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Il sera donc candidat à Paris. Nous vous le révélions à la mi-journée sur notre site franceinfo.fr. Cédric Villani va l'officialiser mercredi dans une semaine. Benjamin Griveaux aura donc son dissident, le candidat officiel investi par La République En Marche sur France Info ce matin. Croyez pourtant encore en un ralliement de dernière minute.
J'ai écrit à Cédric Villani, ça c'est quelque chose de tangible,
tout à fait.
Une lettre vendredi dernier avec des propositions très concrètes pour copiloter cette campagne municipale, parce que je crois que nous n'avons qu'un seul adversaire, c'est Anne Hidalgo, et ça, je le crois profondément. Nous avons plus de convergence que de divergence avec Cédric. Il a, dans le cadre de la procédure interne à La République En Marche, pris un engagement de soutenir le candidat qui sera investi dans l'hypothèse où ce ne serait pas lui, et je crois à sa loyauté. Voilà, il a dit qu'il donnerait sa réponse la semaine prochaine. Je nous propose d'être collectivement patients. C'est une grande vertu.
D'accord.
Alors ça, c'était ce matin avant Hélène Pilichowski. C'est compliqué pour Benjamin Griveaux.
Ah bah ça, c'est clair que c'est compliqué, bien sûr. Cela dit, c'est pas gagné non plus pour les adversaires, pour ses adversaires.
Enfin, non,
c'est
personne ne dit ça.
Voilà. Mmh. Non, mais c'est évident que pour Benjamin Griveaux, la dissension, c'est déjà, il joue presque perdant. D'ailleurs, c'est ce qui émane de sa candidature dans l'opinion, tout dire oui, mais lui, ça va pas, il c'est pas le bon. Il a un handicap presque originel, c'est d'avoir été désigné par le président de la République. C'est ça qui ressort. En fait, Benjamin Griveaux, et il apparaît un peu dans le schéma qui n'est plus en cours aujourd'hui, des proches d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire ces gens extrêmement diplômés, un peu arrogants, un peu sûrs d'eux, un peu sûrs de leur lien avec le pouvoir. Donc ça ne prend pas pour l'instant, ça ne prend pas. Moi, je le connais, je l'ai rencontré, j'ai déjà déjeuné, on a
déjeuné
avec lui.
Vous parlez de Benjamin Griveaux.
De Benjamin Griveaux, pas du président de la République, non, c'est le... Donc voilà. Donc vous dites c'est une mauvaise nouvelle pour lui. Oui. Alors en revanche, Cédric Villani, je pense que c'est un peu l'inverse. Il est presque surcoté. C'est étonnant parce que quand il a annoncé sa candidature, bon, on se disait tiens, il descend de sa planète. C'est un brillant intellectuel, mathématicien, etc. Comme chacun sait. Alors il arrive là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est pas en mesure. Il n'a pas la stature. Et puis il a progressé. Il a beaucoup progressé dans les contacts, etc. Et donc, on ne sait pas ce que ça peut faire, mais ça peut peut-être prendre au bout d'un certain temps.
Oui. Thierry Curté, je vous vois un petit peu hocher la tête.
Oui, Cédric Villani, c'est quelqu'un de particulier. Il n'a jamais connu l'échec. Et donc, il a visiblement très mal vécu lorsque la commission d'investiture a désigné Benjamin Griveaux. Il a très mal vécu ce qui a été pour lui son premier échec, comme un échec à un examen. Et vous savez tous la carrière assez extraordinaire qu'il a fait. Il est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. Et donc, pour lui, il vit pour l'instant cette non-investiture comme un échec. Et puis lui,
il n'y a pas
également...
d'échec, il parlait de procédure viciée.
Oui. Alors, il met ça sur la faute du règlement. Et puis lui, il veut incarner autre chose. Il estime que Benjamin Griveaux va faire une campagne, une politique plutôt à la droite de En Marche. D'ailleurs, Benjamin Griveaux espère beaucoup récupérer des voix, des électeurs de droite avec une droite parisienne en décomposition. Et Cédric Villani, lui, espère incarner plutôt une politique à la gauche de En Marche. Et il faut rappeler également les liens que Cédric Villani a avec Anne Hidalgo, notamment des précédentes campagnes.
Alors, il ne fallait pas l'énerver, Cédric Villani, Sophie de Menton.
Il ne fallait pas l'énerver, mais vu de l'extérieur, comme ça, il a très mauvais caractère, il n'a pas été sympa, il n'a pas joué franc jeu.
Vous trouvez ?
Oui. Je trouve que voilà,
on va se présenter.
Non, c'est pas ça, se fait pas. Alors c'est la machine
mauvais
à perdre.
Perdant. Mauvais perdant.
Voilà. C'est la machine à perdre qui s'est mise en marche. Parce que franchement, c'est sont des divisions tout azimut. D'ailleurs, entre nous, les Parisiens, entre Cédric Villani et ceux qui se présentent, quels qu'ils soient, il y a pas de pointure. Et je pense que ça manque vraiment parce que.
Mais qu'est-ce que vous dites ce soir? C'est une candidature dissidente qui est malvenue, selon vous?
Oui. Dissidente et malvenue. Avec quelqu'un de très fort.
Quand on voit M. Grimaud, qui est censé représenter le Nouveau Monde, qui dit il n'a pas respecté la commission de En Marche, de qui se moque-t-on?
Mais j'ai pas dit que c'était mieux, Grimaud.
Laisse-moi terminer. De qui se moque-t-on? On parle d'un Nouveau Monde. On place M. Alain Richard, historique dinosaure rocardien, qui vient dire oui à tout ce qui vient de l'Élysée. Et on parle de Nouveau Monde, et on parle d'une commission électorale. On sait que tout ça a été décidé, t'es pipoté. Moi, ce qui m'interroge, c'est qu'on a un président qui a d'énormes qualités, mais qui a deux défauts. En tout cas, qui a ce défaut sur les nominations. C'est-à-dire, comment pouvait-il imaginer, quelles que soient les qualités professionnelles de Madame Loiseau, qu'elle serait une formidable locomotive? Et comment peut-il imaginer que cet être diplômé, ex-strauss-kahnien, qui manque à ce point d'empathie et qui se croit déjà maire de Paris, peut l'emporter? Donc il y a un manque de jugement présidentiel là qui m'étonne. Alors, Villani, on peut le comprendre, à condition qu'il tienne la route, qu'il tienne le choc d'une campagne, puisqu'il aime pas perdre, à condition qu'il ait une vraie équipe
et derrière
des gestionnaires, qu'il soit le professeur Tournesol d'une équipe de gestionnaires, à condition qu'il crée la surprise, à condition qu'il soit celui qui, pour les Parisiens, nous permettent de desserrer les taux entre Madame Hidalgo et Monsieur Griveaux, dont personne ne veut, les Parisiens ne veulent ni de l'un ni de l'autre.
Attendez, on va prendre le temps d'en parler, ne vous inquiétez pas. Hélène Pilichowski.
Oui, c'est un peu dommage pour le président de la République, parce que c'est très lié, puisqu'il s'est beaucoup investi dans les municipales, mais c'est un peu dommage qu'on voit à cette occasion-là une réapparition de ce qui lui a fait du tort au début de son mandat. Au moment où il est en pleine ouverture, changement de méthode, etc., il fait appel, il se rapproche des Français et tout ça. Et puis, il y a cette désignation, parce qu'on peut appeler ça que comme ça, cette désignation de Benjamin Griveaux, qui vient comme un peu un talon d'Achille pour lui. Et c'est vrai qu'au niveau des relations humaines, c'est pas encore... pour Emmanuel Macron, il n'est pas encore le meilleur DRH, comme disait Nicolas Sarkozy quand il était arrivé aux journées, je me souviens, du MEDEF, en disant « je suis devenu le meilleur DRH de France », etc. Non, alors là...
De la gauche.
De la gauche aussi, il l'a dit, absolument.
Quelles conséquences à Paris? Thierry Curté, vous allez avoir la parole dans un tout petit instant, tout d'abord à 20h10 sur France Info. Nous marquons une pause, le rappel de l'info avec vous, Julie Smul.
Accord politique trouvé en Italie entre le Parti démocrate et le mouvement 5 étoiles. Un accord pour former un nouveau gouvernement qui serait dirigé par le Premier ministre sortant Giuseppe Conte. La suspension du Parlement britannique acceptée par la reine Elisabeth II. Une demande de son Premier ministre Boris Johnson pour pouvoir garder les mains libres sur le Brexit sans être freiné par l'opposition. 300 personnes rassemblées à Paris ce soir pour dire stop au féminicide. 97 noms lus à voix haute devant l'hôtel de ville, les noms de ces femmes tuées par leur ex ou par leur conjoint depuis le début de l'année. Rassemblement à l'appel de l'actrice Eva Darlan, alors que mardi à Matignon s'ouvre un Grenelle contre les violences faites aux femmes. La Française des Jeux sera privatisée dans les prochains mois. Bruno Le Maire le confirme aujourd'hui. L'État, qui possède pour l'instant 72% de la FDJ, compte en conserver au moins 20%. Sylvie Goulard, choix du président Macron pour représenter la France à la Commission européenne. Ancienne députée Modem au Parlement européen, puis ministre des Armées dans le premier gouvernement d'Édouard Philippe. Elle avait démissionné un mois plus tard après l'ouverture d'une enquête sur des soupçons d'emploi fictif au sein du parti. Le match de Ligue 1 entre Lille et Saint-Étienne vient de reprendre. Deuxième mi-temps, les Lillois mènent 1-0. C'est un match décalé de la troisième journée. Encore un match au programme tout à l'heure à 21h. Nice accueille l'Olympique de Marseille.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
C'est décidément une soirée désignation. On va parler de Sylvie Goulard dans un instant, mais Thierry Curté, sur cette affaire à Paris, est-ce qu'il y a un risque d'exclusion pour M. Cédric Villani?
Alors, d'abord, il faut se souvenir que ce n'est pas la première fois que dans le camp favori pour la mairie de Paris, il y a des divisions et plusieurs candidats. Il faut se souvenir de Thibéry Seguin.
Et le psychodrame.
Exactement. Et là, hélas, cela avait été perdant. Et puis, il faut se souvenir aussi d'un autre duo comme ça qui s'était lancé. C'était Jacques Lang et Delannoy en 2001. Et là, il avait fallu l'arbitrage de Lionel Jospin qui avait dit « ce sera Delannoy ». Et donc, il avait fallu un arbitrage extérieur. Sinon, c'était l'échec. Et donc, on peut tout à fait imaginer que dans cette histoire... Eh bien, Emmanuel Macron se dise, finalement, je ne peux pas choisir entre ces deux candidats. Peut-être d'ailleurs que les sondages au mois de septembre, lorsque les prochains sondages vont sortir et que Cédric Villani se sera véritablement déclaré, on va peut-être s'apercevoir que finalement, il n'y a pas tant d'écart que ça. Et là, pour Emmanuel Macron, la solution, ça sera compliqué de choisir l'un des deux. Elle sera peut-être un autre candidat. Mmh. Et peut-être, pourquoi pas, à ce moment-là, le retour de la candidature d'Édouard Philippe comme arbitrage.
Ah oui, Georges-Marc, il faut un arbitrage.
À écouter Thierry Curtet, non. C'est-à-dire que tous les candidats des présidents, depuis Valéry Giscard d'Estaing, ils perdent. C'est-à-dire que M. Dornano, candidat du président Giscard, perd. M. Jack Lang, candidat un peu officiel des sociétés, perd face à Delannoy. Et puis M. Tibéri, candidat dissident face à M. Seguin, perd. Donc, si la loi électorale de la loi Curté se confirme, Griveaux perd.
Bravo. On va surveiller ça.
Ouais. Allez, nous allons en venir à cette autre désignation, celle de Sylvie Goulard, candidate de la France, comme commissaire européenne en lieu et place de Florence Parly, dont le nom avait été régulièrement cité. Mmh. Cette nouvelle, évidemment, a créé la surprise. Ce qu'on a dit tout à l'heure, Isabelle Saporta, elle est candidate, décidément, aux côtés de Gaspard Ganzer à la mairie de Paris, et elle était invitée du 18-50 de France Info.
Pourquoi ce qui n'est pas bon pour la France le serait pour l'Europe? Pourquoi ce profil? Là, je crois qu'on sort quand même d'une séquence avec ce G7, avec la forêt amazonienne qui brûle, où Emmanuel Macron a dit l'importance de l'écologie. Pourquoi il prend un profil qui n'est absolument pas écolo? Je veux dire, voilà, cette femme a vraiment des convictions européennes chevillées au corps, j'en conviens. Mais par contre, au niveau écologique, rien. C'est quelqu'un qui défend l'austérité budgétaire. C'est quelqu'un d'hyper libéral. Bon, moi, je vois pas en quoi ça va révolutionner l'Europe.
Sophie de Menton, cette candidature pose problème.
Je trouve excellente. Et je trouve que pour une fois, on a une bonne désignation. Parce qu'on parlait de désignation et j'aurais voulu ajouter qu'il y avait encore pire que toutes les désignations. C'était celle de M. Moscovici à la tête de la Cour des comptes qui était une, pour les chefs d'entreprise, une honte absolue.
Donc il doit quitter Bruxelles pour
Bruxelles prendre la tête de la Cour des comptes. Après avoir plombé complètement la dette de la France, il est arrivé à Bruxelles, il a dit que tout ce qu'il avait fait était très mal et qu'il fallait absolument avoir une rigueur budgétaire formidable. Il n'a fait que critiquer la France pendant et on le nomme à la tête de la Cour des comptes. C'est stupéfiant. Donc je reviens sur ce que disait Hélène, sur les désignations, parce qu'il y a effectivement des castings qui sont curieux. Celui-là me semble excellent. C'est une femme intelligente, douée, qui a écrit plusieurs bouquins sur l'Europe. Alors, je crois qu'il ne faut pas penser qu'ils sont juste désignés pour un sujet particulier. Je crois que quand on a du talent, qu'on a de la volonté... elle est bien placée et on a envie qu'elle ait un autre poste que celui pour lequel elle est spontanément désignée.
Vous pensez à quoi précisément, Sophie de Menton ?
À la place qu'on a au sein de l'Europe. Où
quel autre poste en fait,
il y en a plusieurs qu'on peut briguer, il y en a plusieurs qui sont à briguer, parce qu'on n'est pas très bon pour l'instant. Effectivement, Madame Loiseau ne nous a pas arrangé une présence à l'Europe intéressante.
Mais Hélène Pilichowski, ce qu'évoquait tout à l'heure Isabelle Saporta, c'est l'ancienne députée européenne éphémère, il faut le dire, ministre des Armées au début du quinquennat, qui avait été citée dans l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif au MoDem. Je répète ma question, est-ce que cela est un problème aujourd'hui?
D'abord, je dois dire qu'en écoutant Isabelle Saporta, j'ai eu l'impression d'entendre un peu Cécile Duflot, c'est-à-dire les grandes, vous savez, les Verts qui détestent tout ce qui peut toucher à toute forme d'irrégularité, quelle qu'elle soit, etc. Bon, pour ce qui est de l'enquête sur les emplois fictifs du MoDem, bon, je ne pense pas que ça soit d'énorme importance pour elle, même si ça en a en soi, je ne sais pas. Toujours est-il que ça n'intéresse pas tellement la justice, puisqu'elle n'a pas été entendue depuis qu'elle a démissionné, donc il y a bientôt deux ans. Hein, elle est restée qu'un mois, c'est ça. Donc, ce qui est peut-être un peu plus gênant, c'est cette affaire qui la concernait personnellement et qui a fait qu'elle a démissionné en premier. Elle a démissionné très très vite, souvenez-vous.
Oui. Ça même avant même François Bayrou.
Sans le prévenir, François Bayrou. Tout ça parce que quand elle a été députée européenne à deux reprises et quand elle a été à Strasbourg pendant deux ans, je ne sais plus exactement en quelle année, peu importe, elle a perçu des honoraires d'un think tank américain, voilà, de 10 000 euros par mois qui venait s'ajouter à sa rémunération de députée européenne. Bon, oui, effectivement, c'est assez contestable, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, est-ce que...
Pour vous, ça, c'est peut-être plus prégnant, plus... C'est
oui, parce que ça va ressortir.
Ça peut disqualifier cette...
Ça va disqualifier, et puis ça va créer une polémique encore à l'intérieur de la France. Alors, je ne sais pas si au niveau européen, ça va irradier jusque-là, je ne suis pas certaine, mais c'est quand même quelque chose qui est un peu préjudiciable. Et j'espère surtout... Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui, par rapport à Nathalie Loiseau, sera peut-être mieux s'imposer que ne l'a fait la tête de liste de La République En Marche aux élections européennes.
Thierry Curté. Ouais.
Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut souhaiter et que notre DRH national n'a pas fait un deuxième faux pas en la désignant.
Je voudrais briser un peu cette belle unanimité. Il y a quand même une affaire qui n'est pas terminée. Il faut savoir que dans cette affaire, le siège du parti, le MoDem, a été perquisitionné. Le domicile du collaborateur a été également perquisitionné. Que l'affaire n'est pas terminée, que la justice n'a pas clos l'affaire. Et d'ailleurs, c'est ce qui empêche Marielle de Sarnez et François Bayrou d'éventuellement revenir au gouvernement. Oui. Et puis, il y a un autre petit problème, c'est que dans cette affaire, ce que l'on reproche à Sophie Goulard, c'est...
Sylvie
Goulard, c'est en lien avec l'Europe, puisque elle aurait dit la justice, elle enquête la justice sur de possibles financements par l'Europe du train de vie du parti. Et là, elle devient commissaire européenne. Donc, moi, je veux bien, mais il faut savoir quand même que
le Parlement... Vous voulez dire qu'il faudrait apurer ces dossiers-là avant même toute forme de désignation?
Je ne peux pas penser qu'ils y sont allés tous les deux. Je ne peux pas penser que le président de la République et elle, qui a été très prudente, parce qu'elle avait démissionné. Elle a démissionné avant tout le monde sans qu'on lui dise rien. On était comme ça. Je ne peux pas penser qu'elle ait été désignée si cette affaire n'a pas des réponses extrêmement claires.
Vous voulez dire que les dossiers sont sur le bureau du président de la République et pour lui, c'est dans le rétroviseur?
Je pense.
Georges-Marc Benhamou.
Moi, je suis partagé. Je pense qu'effectivement, ce qui n'est pas bon pour la France ne devrait pas être bon pour l'Europe si on a une rectitude politique. Elle a été démissionnée comme ministre. Peut-être eût-il fallu qu'elle ne démissionne pas à l'époque, parce qu'elle n'est toujours pas mise en examen. Mais en tout cas, on a considéré qu'elle n'était pas assez bonne pour la France, on la met pour l'Europe. Deuxième élément, disons, de mon déchirement, même si c'est pas... C'est une excellente professionnelle de l'Europe. Surtout, elle a des liens assez forts avec la présidente européenne, dont, pardon, j'ai oublié le nom. Si donc, elle permet de remettre en marche le moteur franco-allemand...
Elle est germanophone.
Et si c'est bon pour la France, eh bien, on s'en foutra. Donc, voilà, on verra bien plus tard. Donc, qu'elle fasse vraiment le job.
Nous restons sur le sujet. 20h20 sur France Info. Tout d'abord, nous marquons une pause de nouveau avec vous. Le rappel de l'info, Julie Smul.
La tempête Dorian s'est transformée. C'est maintenant un ouragan qui se dirige ce soir vers Porto Rico. Il devrait toucher l'île d'ici une heure. Les vents atteignent déjà les 120 km/h. Deux ans après les 3000 morts causés par l'ouragan Maria, Porto Rico se barricade. Des municipales à Paris qui s'annoncent tendues. Cédric Villani sera candidat. C'est France Info qui vous le révèle aujourd'hui. Ce sera officiel la semaine prochaine. Le député En Marche de l'Essonne a pourtant échoué à obtenir l'investiture de son parti. C'est Benjamin Griveaux qui a été choisi début juin. On en sait un peu plus ce soir sur la réforme des institutions. Le projet de loi présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Deux mesures à retenir. Un quart de parlementaires en moins. 433 députés par exemple au lieu de 577 aujourd'hui. Et l'introduction de 20% de proportionnel aux élections législatives. Des propos sexistes et homophobes publiés sur la page Facebook d'un groupe d'étudiants des premières années en médecine à l'université de Clermont-Ferrand. L'UNEF Auvergne, alertée par une élève, dénonce ce soir ce message et demande à la direction des sanctions. 700 brebis tuées par des loups depuis le début de l'année dans les Hautes-Alpes. Chiffre donné sur France Info par le secrétaire général local des jeunes agriculteurs. Les éleveurs bloquent la préfecture de Gap depuis lundi soir. Ils demandent le droit de tirer sur les loups en cas d'attaque.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors rien n'a dit aujourd'hui, parce qu'il y aura des auditions, hein, que Sylvie Goulard sera l'une des commissaires de d'Ursula von der Leyen à Bruxelles. Mais tout de même, quel serait donc le portefeuille idéal pour cette future commissaire ou commissaire européen au masculin, si d'aventure ce n'était pas elle. Hélène Pilichowski, on parle toujours de l'environnement.
Oui, oh ben l'environnement, mais apparemment, c'est pas...
Qui est devenu, finalement, l'alpha
et l'oméga. Voilà, c'est pas du tout sa spécialité. Elle, c'est plutôt l'économie. Là, à l'heure actuelle, elle a été nommée sous-gouverneur de la Banque de France, c'est ça? Deuxième sous-gouverneur de la Banque de France. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui est effectivement compétente en matière économique et financière, ce qui est très important.
Donc, qui pourrait succéder à Monsieur Moscovici, finalement.
Mm-hmm. Oui, voilà, absolument. Ah. Parce que l'environnement, ça serait encore un choix.
Oui, un sous-choix.
Non, parce que c'est au cœur de la vie de l'Europe maintenant.
Mais pour la France, c'est plus important d'avoir l'économie.
Sophie Danton, oui.
Oui, je pense que là, il y a une véritable attente. Je pense que c'est important. Alors évidemment, c'est ma casquette chef d'entreprise. L'environnement est un vaste débat, mais je ne pense pas qu'il va se passer des choses extraordinaires à Bruxelles sur ce plan. Économiquement, je pense que c'est fondamental.
Alors justement, puisque l'on parle de cela, c'est le virage vert d'Emmanuel Macron que vous avez tous constaté. Est-ce qu'au fond, ce virage est effectif? Le président de la République, en tous les cas, est face à une sorte de colère qui gronde sur le climat. Écoutez ce qu'annonçait ce matin Cécile Duflot, vous l'évoquiez tout à l'heure, la directrice générale d'Oxfam France, c'était sur France Info. Ah, on va écouter Cécile Duflot. Petit problème de son, Cécile Duflot qui annonçait de prochaines mobilisations en France sur la question du climat. Je me tourne vers vous, Georges-Marc Benhamou. C'est devenu finalement l'un des sujets majeurs aujourd'hui de la vie politique française.
Oui, mais écoutez, moi je crois que les commentaires, Jean-François, sur ces questions ne servent à rien. Qu'on est dans l'émotion, dans la communication. Moi, ce qui m'importe pour savoir la politique du président Macron, ce serait de savoir à intervalles réguliers si les accords de Paris signés par la France et des 200 nations, c'est-à-dire l'unanimité des nations, sont tenus. Or, à ce jour, on est, nous qui avons été l'initiateur, grâce à François Hollande, Laurent Fabius, repris par... On est les mauvais élèves. C'est-à-dire qu'on est plus mauvais que l'Amérique de Trump. C'est-à-dire qu'on a inventé les accords. L'émission de gaz à effet de serre ne sont pas cadrées dans les objectifs, ils sont bien au-delà. Et bizarrement...
C'est effectivement ce que dit Oxfam, c'est effectivement ce que dit Greenpeace. Oui, tout à fait.
Donc, la vérité, elle est dans ces chiffres. Elle n'est pas dans la com, les adolescents reçus...
Vous dites que c'est de la com, tout ça.
Non, mais peut-être... Écoutez, la vérité, elle sera dans des rapports. Je veux dire, du reporting, comme on dit dans l'entreprise et dans le monde du président Macron. Parlons chiffres.
Hélène Pilichowski.
Bien sûr. Moi, je trouve que en matière d'environnement et puis sur toutes les questions qui tournent autour du réchauffement climatique, on a trop de lanceurs d'alerte, si on peut employer cette expression à ce niveau-là, parce que constamment, ça n'arrête pas. Les leçons, les alertes, les mises en garde.
Les scientifiques du GIEC, c'est le seul lanceur d'alerte fiable.
Absolument. Scientifiques.
Écoutons-les.
Tous les jours, il y a quelqu'un qui lance une nouvelle... C'est ça qui est terrible et qui va peut-être même finir par agacer, peut-être paraître contre-productif. C'est ça que je redoute.
On va voir justement écouter ce que disait ce matin Cécile Duflot et vous réagissez ensuite.
Oui. Aujourd'hui, je vous assure que j'ai la conviction que justement, et je le dis puisque le 20 septembre, il y a un rendez-vous vraiment historique, cette nouvelle grève pour le climat marche de tous les jeunes, dont on sent qu'y compris des organisations syndicales maintenant bougent sur ce sujet. Imaginons si toute la jeunesse, si une immense majorité de la société civile et de la population est dans la rue le 20 et le 21 septembre prochain, ça aura un effet politique peut-être bien plus fort que quelques personnes qui essayent d'alerter depuis des années.
Thierry Curté, ce sont les mobilisations à venir.
Oui, effectivement. Les mobilisations, elles sont très importantes parce qu'en fait, le virage écologique, il est à prendre dans tous les domaines de la vie, que ce soit notre façon de travailler, notre façon de nous transporter, notre façon de nous alimenter, même notre façon de nous loger. L'écologie doit transformer tous les aspects de la vie. Et pour qu'elle change tous les aspects de la vie, il faut qu'il y ait une forme d'acceptation de la population pour que justement on puisse faire les efforts et changer notre voiture, investir pour changer notre voiture, investir pour mieux nous isoler, investir pour mieux travailler. Et tout ça passe par forcément un courant qui emmènera l'opinion publique. Et donc effectivement, on peut dénoncer tous ces lanceurs d'alerte, mais en fait, tous ces lanceurs d'alerte, ils servent à imprimer l'opinion publique et à aider l'opinion publique à faire cette transformation.
Sophie de Menton, vous semblez dénigrer cet aspect des choses.
Oui, alors dénigrer, non. Rapidement. Je suis moi très exaspérée par ces lanceurs d'alerte permanents, par ces appels à la manifestation. Je pense que c'est inutile, c'est contre-productif, et très souvent, ce sont des contradictions absolues. On vous explique qu'il ne faut pas prendre l'avion, qu'on doit prendre le train, etc.
L'opinion publique n'est quand même indispensable sur des questions
majeures. Ce qui va se passer, et ce qui est bien, c'est que ce sont les entreprises qui ont la solution. C'est elles qui doivent faire les innovations pour venir, et c'est complètement autre chose, et elles sont en train de s'y employer.
Allez, 20h et
vous savez quelle a été la meilleure alerte ?
Hélène
Pijefsky. Les canicules de l'été. Allez. Et ça a mobilisé la population.
20h et 28 minutes sur France Info. Nous nous retrouvons dans quelques minutes après le rappel de la météo et les infos pour la suite des informés.
Toutankhamon, le trésor du pharaon, l'exposition des 100 ans, en partenariat avec France Inter. Une exposition immersive qui réunit 150 objets originaux issus de la tombe de Toutankhamon, dont des trésors inestimables exposés pour la première fois en Europe depuis 50 ans. Toutankhamon, le trésor du pharaon, actuellement à la Grande Halle de la Villette. Toutes les infos sur franceinter.fr.
Les éditions Radio France présentent Chronique de l'espace. Un livre de l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet.
Le 21 juillet 1969, un homme pose pour la première fois le pied sur la Lune. Il s'appelle Neil Armstrong.
That's one small step for man.
C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité.
Découvrez la fabuleuse épopée de l'exploration spatiale dans le livre Chronique de l'espace de Jean-Pierre Luminet, une coédition France Inter. France Info Météo. Avec Gauthier, séjour, salon, chambre et dressing, le mobilier pour toute la maison à retrouver dans nos magasins et sur gauthier.fr.
La météo, les prévisions avec vous, Elodie Calac pour Météo France.
Encore un risque orageux sur l'Est demain. Sur le Nord-Est, quelques averses le matin. L'après-midi, des orages se développeront entre le Massif central et les Alpes et sur la Corse, une belle matinée. Puis un risque orageux pour l'après-midi, essentiellement en montagne. Sur les Pyrénées, une averse orageuse possible également. Autour de la Méditerranée, du soleil. Ailleurs, la matinée sera partagée entre éclaircies et nuages. Des nuages plus nombreux vers le sud de la Garonne et des Pays de la Loire vers la région parisienne et le nord de la Seine. L'après-midi, c'est le soleil qui s'imposera très largement près de la Manche, près de l'océan et sur le sud-ouest. Il fera un peu frais sur le nord-ouest le matin, 9 à 15 degrés, 15 à 19 degrés ailleurs, jusqu'à 22 sur le sud-est. L'après-midi, ça baissera encore un peu au nord, 21 degrés à Cherbourg, 26 à Paris, à Nantes, 30 à Strasbourg, Bourges, Lyon, Agen, Bastia, 33 à Perpignan et 35 à Nîmes. Les températures seront à nouveau plus chaudes vendredi et samedi, mais ça ne durera pas.
Heures et 30 minutes sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Claire Flochel.
Bonsoir à tous. Sylvie Goulard pourrait représenter la France au sein de la future Commission européenne. Ancienne brève ministre des Armées, il y a 2 ans, 35 jours avant de démissionner en raison des soupçons d'emploi fictif du Modem au Parlement européen. Sylvie Goulard a donc été désignée par Emmanuel Macron pour rejoindre l'institution bruxelloise qui entrera en fonction le 1er novembre. La haute fonctionnaire est loin d'être une inconnue à Bruxelles. Ses compétences y sont largement reconnues. Angélique Boin.
C'est une consécration pour cette experte des affaires européennes dont tout le monde à Bruxelles loue les compétences. Conseillère politique du président de la commission Romano Prodi en 2001, puis eurodéputée entre 2009 et 2017, Sylvie Goulard était un membre très respecté de la commission en charge des affaires économiques et monétaires. D'anciens collaborateurs louent sa très grande connaissance des dossiers zone euro, union bancaire, sa facilité également à échanger sur les dossiers techniques en plusieurs langues. Cet énarque de 55 ans manie avec aisance l'allemand, l'anglais et l'italien. Ombre au tableau, sa mise en cause dans l'affaire des emplois supposés fictifs d'assistants Modem au Parlement européen quand elle était députée. Elle est aussi accusée par certains de conflits d'intérêts pour avoir touché une rémunération de la part d'un think tank américain controversé. La candidate française devrait rencontrer très rapidement la future présidente de la Commission, l'allemande Ursula von der Leyen. Au menu des échanges, le choix du portefeuille qu'elle occupera, sans doute un poste à connotation économique, mais rien n'est fait à ce stade. Ursula von der Leyen dispose de 2 mois pour composer et faire valider son équipe par le Parlement européen. À Bruxelles, Angélique Boin, France Info.
En Grande-Bretagne, la reine Elisabeth II approuve la suspension du Parlement demandée par le Premier ministre Boris Johnson. Les parlementaires britanniques ne siégeront donc pas entre le 9 septembre et le 14 octobre, soit deux semaines avant le Brexit. L'opposition dénonce une menace pour la démocratie. Le Parti travailliste, notamment, envisage de déposer une motion de censure contre le gouvernement. À Paris, la bataille des municipales est bien lancée. Cédric Villani, le député En Marche de l'Essonne, se présente en candidat dissident face à Benjamin Griveaux, candidat officiel choisi par LREM. Cédric Villani doit annoncer officiellement sa candidature la semaine prochaine. La question en suspens est celle de son exclusion de La République En Marche. Peut-être un nouveau féminicide en France. Une mère de famille a été retrouvée morte chez elle, près de Poitiers. Cette femme de 39 ans a vraisemblablement été tuée au fusil. L'autopsie devra le confirmer, indique ce soir le procureur de Poitiers. Un homme présenté comme son ex-compagnon a été interpellé. Et puis Greta Thunberg devrait accoster d'ici quelques minutes, quelques dizaines de minutes à New York après 15 jours de traversée de l'Atlantique à bord d'un voilier zéro émission de carbone. La jeune Suédoise doit participer au sommet sur le climat de l'ONU le 23 septembre. 20h33, la suite des informés tout de suite avec vous Jean-François Akili.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Akili.
À la deuxième partie des informés avec Sophie de Monton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, avec Hélène Pilichowski, journaliste politique, avec Thierry Curté, journaliste au service politique de France Télévisions, Georges-Marc Benamou, écrivain, journaliste, auteur du Général a disparu, édité chez Grasset. Tiens, vous nous ferez le pitch à la fin des informés. Allez, oui ou non, l'idée d'un âge pivot pour les retraites a-t-il été enterrée ? Oui, si l'on en croit le chef de l'État, c'était lundi soir lors de son interview aux 20h de France 2. Et non, finalement, selon Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, aujourd'hui au sortir du Conseil des ministres.
Le président de la République a exprimé la préférence qui était la sienne. Il ne s'agit pas là d'enterrer l'idée de l'âge pivot. L'idée est plutôt, dans son esprit, de mieux prendre en compte, notamment ceux qui commencent à travailler tôt.
Hélène Pilichowski, décryptage, s'il vous plaît.
Mais oui, elle précise, si vous voulez, effectivement, ce qui pourrait apparaître comme une petite erreur de la part du président de la République, à savoir de décider tout seul ex cathedra, et à partir du moment, il a pas décidé, il a dit que sa préférence, elle a raison, c'est exactement ce qu'il a dit l'autre soir.
Personne ne lui avait reproché, hein.
Non.
Il ne décide pas seul, en fait. Il a ouvert le débat.
Il a dit,
sans
moi, personnellement.
Voilà, moi, personnellement, ce qu'il avait envie de dire.
Voilà, moi, personnellement, oui. Je préfère l'allongement de la durée des cotisations. Il a dit ça. Il n'a pas dit, maintenant, on va faire ça. Donc elle explique, elle, que par rapport à ce qu'avait choisi Jean-Paul Delevoye dans son rapport, là, qu'il a publié en juillet, c'est-à-dire, effectivement, l'arrivée d'un âge pivot. Mais l'âge pivot, il était déjà un peu contesté. Il était déjà, ça sentait un tout petit peu le soufre. Enfin, c'était un sujet un peu inflammable. Quand même. Là, on s'est dit, aïe, 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 cet âge pivot.
Alors, pourquoi est-ce qu'il revient, Thierry Curté, aujourd'hui ?
Ben non, mais le débat est sur la table, c'est bien. Oui.
Thierry Curté ?
Ben, il faut voir les effets produits si on transforme l'âge pivot et si on préfère, au contraire, la durée de cotisation. Si vous commencez à 18 ans, deux petits chiffres, si vous commencez à 18 ans et que vous devez cotiser 43 ans, à quel âge partez-vous ? À 65 ? À 61 ?
Et un,
voilà. Mais si vous gardez l'âge pivot, ceux qui devaient partir à 61 partiraient à 64, ceux qui ont commencé à 18 ans. Ceux qui commencent à travailler à 23 ans et qui doivent cotiser également 43 ans, mais avec un âge pivot à 64 ans. Bien eux, ils partent à 64 ans et ils ont cotisé que 21 ans. Donc effectivement, on voit que ceux qui ont commencé à travailler tôt, avec le système de l'âge pivot, ils sont désavantagés. Ceux qui ont commencé à travailler tard, et notamment les cadres, eh bien avec le système d'âge pivot, ils y gagnent. Donc, il ne faut peut-être pas oublier ce qui s'est passé tout le printemps, c'est-à-dire le mouvement des Gilets jaunes. Et on peut penser que, en arrière-pensée, il y a cette idée chez Emmanuel Macron de commencer à gauchir un peu son discours, notamment sur cette réforme des retraites.
Il a l'appui de la CFDT.
Je ne sais pas si c'est âge pivot ou pas âge pivot, mais en tout cas, ce que je ressens, moi-même, en tant que citoyen, c'est qui a accompagné Nicolas Sarkozy dans la réforme de 2010, et je réfléchis comment on l'a vendée, cette réforme. Donc, c'est à quoi ça sert ? Moi, je ne sais pas à quoi ça sert. Non, mais honnêtement, à part peut-être limiter les régimes spéciaux.
C'est inquiétant quand même.
Non.
Vous voulez dire à quoi sert la réforme des retraites, c'est ça ?
À quoi elle sert par rapport à celle de 2010 ? C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à boucler les comptes. C'est
la question.
Oui, c'est non, mais
il y a un débat.
Mais on ne le dit pas. On ne le dit pas comme ça.
La question, c'est le financement.
On ne le dit pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau depuis 2010? Il n'y a pas eu de travail pédagogique et il y avait un piège terrible. Enfin, excuse-moi, dans la tête d'un ouvrier, d'un salarié, je dois prendre ma retraite à 62 ans. Eh ben, je vais la prendre à 64. Et ça, c'était une bombe à retardement pour les gilets jaunes, pour une partie des classes laborieuses, absolument. Et je crois que c'était un warning, quelles que soient les qualités de pédagogue de Jean-Paul Delevoye, etc. Et c'est un danger qu'a senti le président de la République. Pour le reste, c'est pas une idée simple. Je pense qu'effectivement, la durée des cotisations, telle que vous l'expliquez, c'est revenir à plus de justice. Sinon, c'était une bombe politique. 62, 64 ans, c'est deux ans sec.
Sophie de Menton, vous croyez sincèrement qu'il y a une nouvelle méthode de discussion autour des retraites, ou au fond la messe n'est pas déjà dite en coulisses?
Alors, d'abord, le MEDEF, et on le voyait ce matin avec Geoffroy Roux-de-Bézieux, apprécie le travail qu'a fait Delevoye. Delevoye a fait un rapport qu'il faut vraiment... Non, pas du tout. Le MEDEF est pas...
Ça me rassure. Non, mais c'est vraiment, je vais passer une bonne soirée.
Parce que... Tant mieux.
Voilà. Que répondez-vous à Georges-Marc Benamou, quand même, au passage?
Donc, il apprécie le travail, c'est un vrai boulot, qui est assez subtil, qui était très compliqué, etc. Il y a des choses qui ont été passées sous silence, parce que nous, on avait assez envie, en plus, qu'il y ait de la retraite par capitalisation. Je pense qu'un mixte des deux aurait pas été mal. Et que cette phrase-là a débarqué, premièrement, probablement pour satisfaire au moins un syndicat.
Vous auriez souhaité un mix entre points et capitalisation.
Ben, oui.
C'est très usine à gaz, ça.
Oui, c'est... Alors, écoutez, d'abord, on pourrait revenir au contraire, effectivement, vous avez raison, à quelque chose de bon sens. Nous devons travailler plus longtemps, on n'a plus de quoi payer les retraites, on n'aura pas de quoi les payer.
Il y a un débat
payer.
Là-dessus, c'est non, pas aussi clair que ça.
C'est aussi clair que ça, ça dépend évidemment de la croissance, mais je pense pas qu'elle va exploser. Ouais. On n'aura pas de quoi payer les retraites.
Le chômage,
c'est
bien
que tout. Le chômage va un tout petit peu mieux pour combien de temps? Et la réalité, c'est que... On vit plus longtemps. Et d'ailleurs, il y avait une réforme qui avait été entreprise en 2000, je sais plus combien, qui était pas mal du tout, et qui consistait à allonger d'un trimestre le départ à la retraite tous les 3 ans. Moi, je pense qu'il faudrait l'allonger tous les 2 ans ou tous les ans.
Oui, ça reste allé très loin, cette affaire-là, Sophie.
Mais oui, ça va très loin, nous vieillissons.
On en revient à des âges pivots, là, qui s'allongent, hein.
Mais bien sûr, mais personne n'en doute, tout le monde le sait. D'ailleurs, les Français sont favorables à ça. Les Français sont favorables à 3 choses. Premièrement, ils veulent tous les Français égaux devant la retraite. Et donc, les manifestations prévues pour les régimes spéciaux, elles sont malvenues. Ils comprennent, ils ont tous compris que quand on vivait plus longtemps, il fallait travailler plus longtemps. Et ils ont tous compris qu'il y avait un véritable risque pour qu'ils ne touchent pas d'argent.
Hélène Pilichowski.
Non, mais il y a aussi l'injustice que Emmanuel Macron, qui n'a pas échappé à Emmanuel Macron, c'est que qui est-ce qui commence à travailler tôt? Ce sont ceux qui n'ont pas passé leur temps plusieurs années sur les bancs de l'université. Donc, en principe, des gens assez peu qualifiés ou pas beaucoup qualifiés.
Ce sont des travailleurs souvent défavorisés.
Défavorisés, mais c'est dur. Donc, ils ont un métier plus dur parce que précisément, ils n'ont pas fait des études supérieures intellectuelles. Donc, ils ont souvent des métiers manuels, etc. Fatigue plus. Donc, il a paru qu'effectivement, si c'est la durée de cotisation qui finalement est retenue, ils partiront plus tôt, ce qu'ils souhaitent tous, ces gens-là, bien évidemment. Donc, c'est ça qui est important. Et c'est pas un hasard si, effectivement, Emmanuel Macron a le soutien de la CFDT
qu'il est allé chercher hein, pour essayer de faire un peu le débat avec les
partenaires sociaux. Qui se noue là actuellement avec la CFDT, bien sûr.
Nous allons rester sur la question des retraites avec ce point de vue du MEDEF qui a démarré ses universités dans un instant. 20h40 sur France Info. Rappel de l'info, Julie Smul.
Une femme d'expérience, une Européenne engagée de longue date, c'est Sylvie Goulard qui est choisie par Emmanuel Macron pour siéger à la Commission européenne 2 ans après son bref passage au gouvernement. Vers une sortie de crise ce soir en Italie, le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate viennent de trouver un accord. On se dirige vers un nouveau gouvernement avec à sa tête le Premier ministre sortant, Giuseppe Conte. Il est convoqué demain matin par le président Sergio Mattarella. Greta Thunberg arrive aux États-Unis après 15 jours de traversée de l'Atlantique sur son voilier certifié zéro émission carbone. La jeune activiste doit débarquer dans moins d'une heure à Manhattan. Elle participera à un sommet de l'ONU sur le climat le mois prochain.
300 personnes rassemblées ce soir devant la mairie de Paris pour dénoncer les féminicides. Ces femmes tuées par leur conjoint ou par leur ex. Elles sont 98 en France depuis le début de l'année, d'après le collectif Nous Toutes. Près de 2 adolescents français sur 10 sont obèses ou trop gros, résultat d'un rapport publié par le ministère de la Santé. Sur France Info, le médecin et député En Marche, Olivier Véran, dénonce un facteur social insupportable. Les enfants d'ouvriers sont plus sujets à l'obésité que les enfants de cadres. C'est la première judoka française 4 fois championne du monde. Clarisse Agbegnénou, 26 ans, remporte un nouveau titre aujourd'hui à Tokyo dans la catégorie des moins de 63 kilos.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Les patrons et les retraites. Alors le MEDEF a démarré ses rencontres des entrepreneurs de France. Vous y étiez, Sophie de Menton. Il paraît que c'est devenu punk, les patrons, avec Nos Futurs, c'est un jeu de mots, et God Save the Queen, des Sex Pistols, et Geoffroy Roux de Bézieux qui arrive sur scène avec cette hymne. Qu'est-ce qui se passe chez vous?
D'abord, je suis enchantée du nouveau MEDEF. Ouais. Premièrement, c'est la première manifestation complètement sous le signe du durable.
Ça, c'est de la com, pure.
Ah non, pas du tout. Non, il n'y a plus une bouteille. De quoi vous parlez?
Non, mais le No Future et God Save the Queen.
Oui, bon voilà, on se distrait un peu. On peut pas être sinistre tout le temps quand même, les patrons. D'abord, ça c'est très important. Il y a d'ailleurs une boîte qui s'est chargée de tout ça. Il n'y a pas une bouteille plastique, il n'y a pas une capsule de café, etc. Merci à la boîte qui a fait tout ça juste à temps, je crois. Bon. Enfin bon, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que on a tout d'un coup la fierté. Le MEDEF reprend du poil de la bête. Le MEDEF a été le sigle le plus haï de France. Je crois que les patrons ont gagné. Les Français ont compris.
Ah, les patrons ont gagné, vous dites ce soir. Oui, bon, c'est normal, vous défendez votre boutique.
Alors, mais non, je ne défends pas ma boutique, je défends l'économie française.
Ne pas augmenter l'âge de départ à la retraite et mentir par omission, c'est ce qu'avait déclaré Geoffroy Roux de Bézieux, le patron des patrons sur France Inter. Gilles Legendre, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, lui a répondu sur France Info ce matin.
Je n'aime pas qu'il nous accuse de mensonge ou de mentir, parce que ça, c'est lui qui est en train de commettre une inexactitude en disant ça. La deuxième chose, c'est qu'il raisonne dans le système d'avant, Geoffroy Roux de Bézieux. C'est toujours un peu le problème. Quand on transforme les choses, les gens se mettent du temps à raisonner dans le niveau dispositif. Le système devra être équilibré. Et il devra être équilibré dès le début de la réforme, c'est-à-dire en 2025.
Vous voyez, Sophie de Menton, 25. Vous qui revendiquez une forme de modernité, il vous trouve dans le monde d'avant, Gilles Legendre.
Non, c'est terrible, hein. Le monde d'avant. Alors d'abord, il faut quand même préciser que le président de la République a dit par omission, et moi j'aurais dit différemment, j'aurais dit que le président de la République a peur un peu de la pédagogie qu'il faut faire. Et c'est vrai qu'on est dans un pays, pardonnez-moi, j'aimerais savoir comment on réforme un pays comme le nôtre. Et c'est les Français qui doivent aussi se poser des questions eux-mêmes face à la retraite. C'est leur retraite, il faut qu'ils aient de quoi la vivre confortablement. Et c'est quand même ce que le gouvernement est en train d'essayer de faire.
Thierry Curtin, on a la sensation que les patrons français tout de même sont sur du travail et plus, et plus encore.
Hein. Ah oui, les demandes du patron du MEDEF, c'est il faut allonger la durée de cotisation et il faut reculer l'âge de départ. Donc effectivement, on voit bien que les efforts demandés par les patrons, c'est
les efforts demandés par les patrons.
Payer votre
retraite.
Attendez,
je suis désolée, c'est difficile pour les patrons, parce que pour commencer,
c'est toujours difficile pour les patrons et pour les employés également.
On va avoir des cadres qui vont arriver tard, ceux qui ont bossé jusqu'à 25 ans. Il faudra les faire travailler jusqu'à 70 ans. Qui va recruter des gens de 70 ans? Difficile aussi
pour
les entreprises.
Ça, c'est la réforme Nicolas Sarkozy.
Alors, oui, absolument.
Terminé.
C'est la réforme Nicolas Sarkozy, c'est pas effectivement une réforme récente, c'est une réforme qui a une dizaine d'années, et Nicolas Sarkozy a dit, eh bien, si vous voulez travailler jusqu'à 70 ans, l'entreprise n'a pas le choix, l'entreprise est obligée de garder l'employé jusqu'à 70 ans.
Georges-Marc Benhamou, la position des patrons français par rapport à la retraite, forcément, elle va déplaire aux partenaires sociaux, aux autres syndicats.
Oui, non, mais vous êtes dans le rôle du MEDEF ou de l'ancien CNPF, qui est encore plus haï que le...
Vous vous adressez à Sophie Menton.
Non, mais moi, je reviens à mon point un peu provocateur au début. À quoi elle sert, cette réforme? Je suis persuadé que si on fait un sondage, les gens sentent qu'il y a une question de financement. Mais que pour reprendre le grand maître à penser du président Macron, Michel Rocard, on n'a pas pris à partie le peuple. pour discuter avec le peuple.
Mais c'est ce
que je pense que ça va être fait un peu tard. Oui. Et je crois qu'il est important, la méthode drocardienne dont s'inspire Macron, pas assez, selon moi, c'est de se nécessaire va-et-vient pour sonder de bas en haut, pour sonder les humeurs, pour essayer de faire partager un diagnostic. Or, aujourd'hui, ça s'est décidé en chambre, à Bercy, de manière technocratique. On vous fait une réforme, j'y comprends rien, à part je sais qu'il faut travailler plus, etc. On n'a pas, on est dans le même bateau, la nation, c'est ça. On n'a pas saisi la nation. Les gouvernants n'ont pas expliqué les yeux dans les yeux. Pourquoi elle est nécessaire? Et je vous dire que même à l'époque, Sarkozy et Fillon, et Dieu sait si on peut leur reprocher les choses, ont un peu plus fait de pédagogie qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour un énarque ou un inspecteur des finances, ça paraît une évidence. Mais quand vous êtes ouvrier et qu'on vous dit 62, 64 ans, c'est pas une évidence.
Oui, et bien c'est peut-être tort, c'est que tous les sondages disent que les Français ont compris absolument l'enjeu des retraites. Regardez les études qui sont faites, vous les avez toutes.
Alors, Sophie de Menton défend évidemment sa paroisse, hein, si je puis dire, mais je voudrais l'avis d'Hélène Pilichowski sur cette réforme des retraites. Ça manque de pédagogie?
Ben oui, mais c'est peut-être justement pour ça que, de manière assez habile, le président de la République a dit l'autre soir qu'il allait laisser les deux sujets sur la table, grosso modo. Il a avoué sa préférence, donc c'est pas vraiment un mensonge, comme l'a dit Geoffroy Joubézieux.
Par omission.
Oui, enfin bon, bref, c'était pas très habile de la part du président du MEDEF. Excusez-moi, je crois pas qu'il soit.
Et en fait, il a lancé le débat.
Non, mais il a dit, donc il veut sans doute, comme il veut tellement maintenant, le maître mot d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est le dialogue, on va dialoguer sur tout, etc. Donc voilà, donc c'est peut-être pour ça que les deux propositions, et faire de la pédagogie, expliquer aux gens
ce que ça fait pendant deux ans, et tout le boulot qui a été fait par Delvaux, je suis désolée, mais il y a vraiment du boulot qui a été fait.
Jean-Paul Delvaux a-t-il vu?
Mais il n'a pas imprimé auprès de la population, c'est ça qui est à l'enjeu.
Alors ça, c'est le tort absolu.
Pour dépasser
le débat. Ne pas avoir parlé au fur et à mesure.
Attendez, pour dépasser le débat autour des retraites, Thierry Curté, François Hollande, avec son CICE, notamment, avait cajolé le patronat français. Est-ce que vous avez la sensation aujourd'hui que le MEDEF est un partenaire d'Emmanuel Macron et du gouvernement?
Hollande cajolant le patronat, là j'ai un malaise.
Le MEDEF a dit, me semble-t-il, ce week-end, que la reprise économique, et si les entreprises françaises allaient mieux, c'était par les mesures prises par les gouvernements successifs, et il donne une date, il dit c'est depuis 2015, c'est-à-dire la réforme du CICE.
C'est Macron.
C'est Macron, ministre.
Donc celui qui la décide,
c'est effectivement François Hollande. Ouais. Et je vous rappelle d'ailleurs que c'est François Hollande qui, par son système très compliqué de crédit d'impôt, l'a fait entrer directement en fonction. Donc on peut dire que c'est Emmanuel Macron, mais c'est d'abord la réforme de François Hollande.
Oui, parce que et d'ailleurs, même le MEDEF le reconnaît aujourd'hui. Se trompe tellement, plante tellement l'économie que Mitterrand avait fait ça aussi. Ah non, mais au début, attendez, c'était un plantage total.
C'est fini. La position de Hollande au début.
Sophie de Menton, ma question, c'est est-ce qu'au fond, ce président de la République, Emmanuel Macron, est un président très favorable au patron, comme le fut précédemment François Hollande?
Alors, François Hollande n'a jamais été un président favorable au patron. C'est pas le sujet. Non, il était favorable et bien.
Il était favorable à ce que l'économie française
se redresse. C'est tout à fait différent. Et ils sont quand même rendus compte, et c'est ça le progrès des choses, c'est que c'était quand même, ça dépendait des patrons. La confiance envers les patrons n'a jamais été forte. Et Emmanuel Macron manque aussi de confiance un peu. Il préfère imposer. Il préfère donner des bonus-malus. Il préfère décider et imposer régulièrement et souvent en changeant. Donc je pense que ça nous manque de confiance, mais il est vrai.
Je vous rappelle qu'il y a eu la réforme. Je vous rappelle qu'il y a eu la réforme sur l'ISF. Je vous rappelle que il y a eu la réforme sur les indemnités prud'homales, par exemple.
Oui.
Il y a eu la loi El Khomri qui est allée beaucoup plus loin.
Et
Emmanuel Macron a mis, par exemple, en place le plan de licenciement collectif. Donc on ne peut pas dire qu'il est beaucoup plus pro-entreprise, bien sûr.
J'allais vous le dire.
Même s'il ne viendra pas aux universités du MEDEF. Allez, 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Julie Smul.
Giuseppe Conte, convoqué demain matin dans le bureau du président de la République italien. Il devrait être chargé de former un nouveau gouvernement. Un accord vient d'être trouvé ce soir entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate. C'est maintenant un ouragan qui se dirige ce soir sur Porto Rico. L'île, encore marquée par le passage il y a 2 ans de l'ouragan Maria, 3000 morts à l'époque. Dorian devrait arriver sur place dans les prochaines heures. La suspension du Parlement britannique, acceptée par la reine Elisabeth II,
Une demande du Premier ministre Boris Johnson pour pouvoir garder les mains libres sur le Brexit sans être freiné par l'opposition. C'est le ras-le-bol de la profession qui s'exprime, dit sur France Info le patron des jeunes agriculteurs des Hautes-Alpes. La préfecture de Gap bloquée depuis lundi soir par une cinquantaine d'éleveurs pour protester contre les attaques de loups. Des éleveurs qui demandent le droit de tirer quand leurs troupeaux sont attaqués. Cédric Villani sera candidat à la mairie de Paris, annonce officielle prévue mercredi prochain. Candidature dissidente du député LREM de l'Essonne, puisqu'il a échoué à l'investiture de son parti. C'est l'ancien porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux qui a été choisi début juin. Et puis la claque en football pour les Stéphanois, ils perdent 3-0 face à Lille, c'est la dernière minute de jeu. Match décalé de la troisième journée de Ligue 1, journée qui se termine avec un dernier match, Nice qui accueille l'OM, coup d'envoi à 21h.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Revoilà le serpent de mer, la révision des institutions annoncée en sortie de Conseil des ministres avec annonce principale 20% de proportionnel aux prochaines législatives et surtout une réduction de 25% du nombre de parlementaires comme l'a confirmé la garde des Sceaux, Nicole Belloubet.
Le premier de ces objectifs consiste à renforcer la qualité du travail du Parlement par la diminution de ses effectifs. Et c'est le projet de loi organique qui porte cette diminution des effectifs, qui aboutit à une réduction de 25%, donc en fixant à 433 le nouvel effectif des députés et 261 celui des sénateurs.
Hélène Pilichowski, il y a urgence en la matière ?
Il y a urgence, c'est-à-dire que, comme vous dites, effectivement, c'est le serpent de mer, mais on en parle depuis très très longtemps et on a beaucoup beaucoup contesté le trop-plein de parlementaires en France. Bon, ça fait partie du programme de campagne quand même d'Emmanuel Macron. Donc il a dit qu'il allait réformer le pays, On est très très haut placé dans le nombre de parlementaires par rapport aux démocraties comparables, en fait.
Le trop-plein de parlementaires... Il faut savoir le sens des mots, le trop-plein de parlementaires dans une république qui est finalement assez fragile, qui a été depuis 1789 mise à bas souvent, ça me fait mal aux oreilles.
Pourquoi ?
Le trop-plein de parlementaires, j'ai entendu ça
c'est
digne de la pensée de gens qui sont anti-parlementaires. Dans des périodes funestes de l'histoire de France.
On a beaucoup critiqué. Le trop-plein de parlementaires,
ça déchire mon cœur de citoyen français.
Entre parenthèses,
on peut discuter. Le Parlement, il marche bien. Il marche pas. On ne peut pas dire pardon de ma colère, de ma sainte colère. On ne peut pas dire trop plein de parlementaires dans ce pays.
On ne le dira plus. On va demander à tous les aux populistes. Demander aux populistes de tout poil d'arrêter de parler de trop plein parlementaires vient.
Plus articulé. Moi, je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a le problème de la proportionnelle, qui est une évidence d'acceptation. Et puis, je pense que ce trop-plein de parlementaires, avec guillemets, participe de l'affaiblissement progressif du Parlement depuis 1958 et accélération avec le quinquennat qui étouffe totalement la vie parlementaire et qui provoque d'ailleurs des gilets jaunes des problèmes de respiration démocratique.
Thierry Curtier, ça parle français ?
Il faut, pour aller dans le sens de Georges-Marc Benhamou, aujourd'hui, il y a un député pour environ 125 000 Français. On nous explique, les Gilets jaunes nous ont expliqué que les députés, ils ne les voyaient jamais. Je voudrais bien savoir comment, avec un député pour 200 000 Français, la réforme va permettre de voir un peu plus les députés sur le terrain. Avec la réforme de la proportionnelle, ces députés-là, ne seront jamais sur le terrain puisqu'ils seront désignés par leur parti. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien comprendre que cette réforme, elle n'est pas là pour faire des économies. Cette réforme ne fera aucune économie. Elle est là pour donner plus de moyens aux députés et plus de moyens à l'Assemblée et au Sénat. Il faut savoir quand même que aujourd'hui, lorsqu'un député ou un groupe de députés veut une commission d'enquête, veut avoir un rapport, il est obligé de se tourner, par exemple, vers Bercy pour dire est-ce que si je prends telle mesure, c'est une mesure qui est intéressante financièrement. Et là, évidemment, le député, il est très méfiant quand il pense que Bercy n'est pas d'accord avec ce que lui va proposer. Et donc cette réforme. réforme, elle est là pour donner plus de moyens et pas pour faire des économies.
Sophie de Menton, pour conclure sur cet aspect des choses.
Ouais. Je pense qu'il y a peut-être un peu trop de parlementaires, on va parler de trop plein, mais surtout que effectivement l'Assemblée, vous disiez qu'elle travaillait très bien. Moi, j'ai été les rencontrer avec des chefs d'entreprise. Je pense qu'actuellement, les parlementaires sont désespérés. On leur donne des textes à voter qu'ils n'ont pas eu le temps d'étudier. Ça arrive, ils nous ont dit « expliquez-nous ».
Ça va trop vite.
Ça va trop vite.
Ouais, s'ils sont moins nombreux, ils ont encore moins le temps d'étudier les textes.
Oui, alors non, mais je pense qu'il y a un fonctionnement qui va avec. Je veux dire, ça ne veut rien dire, effectivement, de supprimer les choses comme ça, des gens comme ça. Je pense qu'il y a un fonctionnement de l'Assemblée qui n'est plus adapté. Et je crois, effectivement, que la proportionnelle n'est pas assez... quelque chose d'intéressant.
Alors Georges-Marc Benhamou, il nous reste peu de temps pour conclure. Vous évoquiez à l'instant 1958, Le Général a disparu, c'est votre ouvrage de cette rentrée littéraire. Hein. Vous racontez Baden-Baden, la fuite.
Je raconte De Gaulle et ses gilets jaunes. Parce qu'en fait, De Gaulle, il a calé devant ces 10 millions de gilets jaunes. C'est ça dont je parle dans cette histoire, c'est un mystère français. L'histoire officielle a pas voulu regarder de près la défaillance de ce roi lire pendant 2 jours qui disparaît. Mais c'est ce que j'ai voulu faire. Alors ça va peut-être à l'encontre des légendes, etc. Mais qu'est-ce qui se passe quand le peuple veut faire tomber le prince de cheval, comme ça s'est passé en 68? Et j'ai écrit ce livre en pensant et en voyant les gilets jaunes qui assiégeaient l'Élysée. Il faut se souvenir des manifestations. Jamais le préfet de police n'aurait permis à ce qu'on rentre, comme ça a été fait, rue de la Paix, rue Saint-Honoré. Et si De Gaulle, c'est le début de mon livre, quitte dans le plus grand secret l'Élysée, c'est parce qu'il a peur que ce jour-là, le 29 mai, que je raconte en détail, l'Élysée soit pris par les communistes.
Donc Macron a été meilleur.
De Gaulle et ses gilets jaunes.
Mais c'est pas fini.
Merci Georges-Marc Benhamou, Le Général a disparu. Hein. C'est un roman, hein, un roman, allez, on va dire historique, chez Grasset, à lire. Tiens, je vais le dévorer. Merci à vous, Sophie de Menton. Sophie de Menton, votre édito, change.fr.
Oui, c'est. Et pourtant, on l'aime, le MEDEF.
Ah mais forcément.
Oui, pardonnez-moi, c'est dans Challenge aujourd'hui.
Merci également à vous, Hélène Pilichowski et Thierry Curté, d'avoir participé à ces informés. Je vous dis bonne soirée, à demain.